Vous écoutez, on lit pour vous.
Une démocratie asphyxiée par les masques de ses forces policières. Un texte de Fabien de Glise paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir. Aux États-Unis, il y a les images et il y a les mots. Mi-juin 2025, devant un comité du Congrès américain sur la sécurité intérieure, la procureure générale Pam Bondi a laissé entendre qu'elle n'était pas au courant que des agents de l'immigration menaient depuis plusieurs semaines des rafles dans le bassin d'immigrants un peu partout au pays, le visage couvert. Questionné sur le sujet par le sénateur démocrate du Michigan, Gary Peters, la ministre de la Justice, plus haute autorité judiciaire que Donald Trump a placée au cœur de sa vaste politique de répression envers les sans-papiers, a alors évoqué une possible volonté d'autoprotection de ses agents pour justifier leur déploiement sans identification claire derrière un masque, une cagoule, un cache-cou remonté jusqu'au nez dans les rues du pays. De nombreuses vidéos et autant de témoignages qui se multiplient depuis plusieurs semaines racontent toutefois une autre histoire. Celle de la terreur imposée à des travailleurs de la construction ou à des étudiants d'origine étrangère soustraits de la trame urbaine par ces personnes sans visage, vêtues en paramilitaires et dont l'autorité qu'elles représentent n'est pas toujours clairement affichée sur elles. Il y a quelques semaines, dans le petit village de Great Barrington, dans le cœur rural guindé du Massachusetts, des passants ont cru à une attaque menée par le groupe de suprémacistes blancs des Proud Boys, des alliés ultra-radicaux du président, contre un jardinier du coin, originaire d'Amérique latine. C'étaient en fait des agents du service de l'immigration et des douanes venus l'arrêter alors qu'il travaillait sur un terrain. En Californie, il y a quelques jours, un autre travailleur d'origine étrangère a cru à un enlèvement lorsque plusieurs personnes dissimulées derrière des masques se sont précipitées sur lui alors qu'il effectuait un aménagement paysager devant une chaîne de restaurants du coin, à l'angle de deux avenues passantes. Il a été poivré, battu, puis jeté en prison sans préavis ni mandat judiciaire. Ces tactiques participent au spectacle de la répression recherchée par Donald Trump, mais pour les défenseurs des droits civiques, elles évoquent surtout les pratiques d'État policier qui entretiennent les soupçons de plus en plus persistants qu'un régime autoritaire est bel et bien en train de se mettre en place aux États-Unis. Le port du masque par un représentant d'une autorité gouvernementale symbolise l'éloignement de cette autorité de l'ordre démocratique, résumait récemment Mike German, ancien agent du FBI, dans les pages du quotidien britannique The Guardian. La généralisation de cette pratique, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, est d'ailleurs sans précédent, selon lui. Et la réticence des représentants du gouvernement à être identifiés alors qu'ils participent à des activités gouvernementales met en évidence l'illégitimité de leurs actions, ajoute-t-il. Pour Geoffrey Stone, professeur de droit à l'Université de Chicago, le port massif de masques par des agents fédéraux est indéniablement inquiétant, dit-il en entrevue au Devoir, et place le pays sur la pente glissante conduisant vers un régime autoritaire, selon lui. La protection de l'identité de ces agents peut être justifiée dans de rares circonstances, lorsqu'il y a un risque crédible et réel pour eux ou pour leur famille, dit-il, ce qui ne semble pas être le cas ici, où la menace pèse bien plus sur les personnes interpellées que sur celles qui interpellent. Le département de la sécurité intérieure a prétendu début juin que la violence envers les agents de l'immigration depuis janvier avait augmenté, en brandissant le chiffre spectaculaire d'une hausse de 413%. Problème. Le communiqué de presse ne mentionne pas le nombre exact de ces attaques, que le Washington Post récemment établissait à pas plus d'une dizaine. Le gouvernement de Donald Trump espère faire grimper à 3 000 par jour le nombre d'arrestations d'illégaux sur le territoire américain. Mépris de la démocratie. Dans une colonne du New York Times, le chroniqueur Jamel Bouie partageait ses craintes quant à cette nouvelle norme d'une police masquée qui est la consécration dans l'appareil de gouvernement du mépris du président envers les obligations démocratiques et l'affirmation du sentiment d'impunité totale qu'il aime afficher depuis des années. Le fait que les services d'immigration revendiquent le droit à l'anonymat, c'est-à-dire le droit d'échapper à la responsabilité de ses actes sur le terrain, témoigne de la manière dont Trump, dans sa quête d'impunité, a déformé et sapé l'idée de mission publique, écrit-il. Ironiquement, le populiste qui dénonçait l'atteinte aux libertés provoquées par l'obligation dans plusieurs États démocrates de porter un masque durant la pandémie de COVID-19 laisse désormais ces mêmes libertés compromises par les masques des représentants de son gouvernement. C'est qu'une police masquée, si elle a le potentiel d'instaurer un climat de terreur, contribue aussi à la perte de confiance du public dans les instances policières d'un État. Lorsqu'il est difficile de savoir pour qui travaille un individu masqué, il est difficile d'accepter qu'il s'agisse d'un exercice légitime de l'autorité, résume Mike German. Sans compter que, dans ce cadre, la personnification de l'ordre public par de simples citoyens ou même par des milices armées devient alors plus facile. Cela génère de facto ce chaos dont se nourrit bien souvent un régime autoritaire pour imposer une répression contre ses citoyens et surtout contre ses opposants. D'ailleurs, plusieurs de ces milices ont déjà levé la main pour se mettre au service du régime de Donald Trump. Devant le risque élevé de violation du cadre constitutionnel qui, dans une démocratie, impose à toute force policière de s'identifier lors d'une intervention, et devant le risque de normalisation d'une violence d'État, deux sénateurs de la Californie, Scott Wiener et Jesse Harriguin, ont décidé d'agir en introduisant le 16 juin 2025 un projet de loi visant à forcer les représentants de l'État à intervenir à visage découvert en Californie. Le No Secret Police Act, c'est son nom, contient deux exceptions. Lors d'opérations SWAT, à haut risque, et lors des incendies de forêt. Selon eux, l'anonymat utilisé comme arme par un régime conduit à la destruction de la société civile et une police agissant à visage couvert donne surtout à un corps policier la possibilité de ne pas avoir de compte à rendre. Et cette menace, si elle avance désormais masquée aux États-Unis, mérite d'être battu en brèche tout de suite, avant de ne plus pouvoir l'arrêter plus loin, estime-t-il. C'était une démocratie asphyxiée par les masques de ses forces policières, un texte de Fabien Deglise paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir.
Une femme sur deux abandonne en 5 ans. Un texte de Lia Lévesque de La Presse canadienne, paru le 3 juillet 2025 dans La Presse. Malgré les efforts des acteurs de l'industrie de la construction, une femme sur deux abandonne son travail dans un délai de 5 ans après être arrivée dans l'industrie. Les statistiques finales de la Commission de la construction du Québec, CCQ, sur le portrait statistique des femmes dans l'industrie pour l'année 2024, confirme ainsi que le taux d'abandon des femmes atteint 52% 5 ans après leur entrée dans l'industrie. À titre de comparaison, le taux d'abandon des hommes après 5 ans atteint 32%. Même après 1 an seulement dans l'industrie, le taux d'abandon des femmes atteint 21% contre 13% pour les hommes. La Commission de la construction explique qu'un abandon est défini comme le fait d'un individu qui ne rapporte plus aucune heure de travail comme salarié à la CCQ, que ce soit dans son métier d'origine ou un autre, et quel que soit son statut, apprenti, compagnon, occupation. Le taux d'abandon est calculé pour toutes les nouvelles personnes admises de chacune des cohortes un an et cinq ans après leur entrée initiale dans l'industrie de la construction. Les travailleuses qui sont diplômées sont moins nombreuses à abandonner que celles qui entrent dans l'industrie par d'autres voies. Le phénomène est le même chez les hommes, d'ailleurs. Pour les acteurs de l'industrie, le défi est donc non seulement d'attirer des femmes, mais aussi de les retenir, malgré les embûches auxquelles elles doivent faire face. Néanmoins, les femmes se feraient un chemin dans cette industrie, petit à petit. Elles étaient 7885 à travailler dans l'industrie en 2024, soit près de 4% de la main-d'œuvre totale. Elles ont été 1594 à entrer dans l'industrie en 2024, ce qui est plus qu'en 2023, mais moins qu'en 2021 et 2022. Elles occupent principalement les emplois de peintre, de charpentière menuisière de manœuvre, d'électricienne et de plâtrière. Elles sont assez réparties entre les tranches d'âge. Ainsi, 1331 ont moins de 25 ans. 3131 ont entre 25 et 34 ans. 2051 ont entre 35 et 44 ans, 919 ont entre 45 et 54 ans, 420 ont entre 55 et 64 ans, et 33 ont 65 ans et plus. C'était « Une femme sur deux abandonne en 5 ans », un texte de Lia Lévesque, de la presse canadienne, paru le 3 juillet 2025 dans La Presse.
Comment remporter un match de judo contre Uber? Un texte de Philippe Mercure, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse. Ceci est l'histoire d'une nouvelle déprimante qui, à première vue, donne le goût de chanter. Allez, hop, un peu de sincérité, le monde est à pleurer. Mais qui? Transformé par les bons soins de la chercheuse Catherine Baudry, de Polytechnique Montréal, finit par ouvrir des horizons et donner le goût de rêver. J'ignore si la professeure Baudry pratique le judo, mais disons que j'admire sa capacité à utiliser la force de l'adversaire comme effet de levier. Madame Baudry, une spécialiste de l'innovation, m'a envoyé récemment une étude émanant de l'Université d'Oxford qu'on pourrait qualifier de décourageante. Elle montre qu'Uber, cette entreprise qui n'a jamais impressionné personne par ses pratiques éthiques, a trouvé un autre truc de coyote pour empocher encore et toujours plus d'argent. Celui-ci tourne autour de la tarification dynamique, cette fonction qui fait en sorte que vous paierez une fortune pour commander une voiture un 31 décembre au soir, par exemple, lorsque toute la ville cherche à se déplacer. En surface, il s'agit d'une simple et brutale application de la loi de l'offre et de la demande. Quand tout le monde cherche un taxi, les prix montent. Logique. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est qu'en analysant pas moins de 1,5 million de trajets réalisés par 258 chauffeurs à Londres, en Angleterre, les chercheurs d'Oxford ont découvert que les chauffeurs ne bénéficient aucunement de cette augmentation de prix. Au contraire, depuis l'apparition de la tarification dynamique, la paye moyenne des chauffeurs d'Uber a diminué. Les revenus sont également devenus moins prévisibles et le temps d'attente entre deux courses a augmenté. À qui profite la tarification dynamique? À Uber, bien sûr, qui soutire en moyenne 38% plus d'argent de chaque heure travaillée par ses chauffeurs.
pour une plateforme censée s'inscrire dans l'économie du partage. Disons que l'entreprise californienne a une curieuse conception du partage des profits. Les conclusions, en provenance de Londres, sont-elles généralisables aux autres villes où Uber fait des affaires? Je ne peux confirmer que l'algorithme fonctionne de la même façon partout, mais je serais surpris que ce soit très différent, m'a écrit l'un des auteurs de l'étude, le professeur Ruben Beans. Il observe par ailleurs que les chauffeurs d'Uber sont beaucoup mieux payés lorsque les services débarquent dans une ville et que leur situation se dégrade ensuite. Ça aussi, c'est troublant. Je précise que les conclusions des chercheurs ont été publiées sur le site ARXIV et n'ont pas encore été révisées par les pairs. La population a le droit de savoir qu'elle se fait avoir si elle veut pouvoir faire des choix éclairés, m'a écrit Catherine Baudry. Elle a raison, d'où cette chronique. Vous voilà informée. J'ai quand même continué d'échanger avec Catherine Baudry. Elle m'a fait remarquer qu'on ignore trop souvent les coûts sociaux et environnementaux des choix que nous faisons. Elle me donne l'exemple de Google Maps ou de l'application Chrono, développée par l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. Ces outils nous disent comment nous rendre du point A au point B en voiture, en transport en commun, à vélo ou à pied. Mais il manque l'information sur les coûts sociaux, environnementaux et économiques, souligne-t-elle. Je rêve un peu, prévient la chercheuse, et qu'il lui reprochera. Il me semble qu'on a bien besoin de rêver. Mais il suffit d'une bonne base de données derrière une application pour développer un indice socio-environnemental et économique, estime-t-elle. Imaginez, par exemple, un code de couleur qui vous indiquerait à quel point les options qui s'offrent à vous sont bénéfiques ou nocives pour la société. Je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines d'applications ont été proposées au gouvernement pendant la COVID-19, rappelle-t-elle. Je suis certaine que nous avons la capacité de développer une telle application sans que ça coûte le milliard de ça clique. Elle dit rêver d'un marathon de programmation pour stimuler la recherche de solutions. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ces idées inspirantes. Nous sommes plusieurs à vouloir faire les meilleurs choix possibles, non seulement pour nous, mais aussi pour la société. Mais le monde est complexe, et nous avons besoin d'aide pour y voir clair. Presque tout le monde trimballe aujourd'hui un téléphone supposément intelligent dans ses poches. L'intelligence artificielle se développe à toute vitesse. Au lieu d'applications conçues pour nous faire consommer plus, pourrait-on développer des applications qui nous font consommer mieux? Imaginez un outil qui nous aiderait à comparer les GES par gramme de protéines associées au kilo de bœuf et à la brique de tofu à l'épicerie, par exemple. Ou à évaluer l'impact des fraises québécoises par rapport aux fraises californiennes. Absolument, s'exclame Catherine Baudry, qui m'informe qu'à Polytechnique Montréal, un indice permet maintenant d'évaluer l'empreinte carbone des plats servis à la cafétéria. C'est bien la preuve que ça se fait. Une application, Yuka, fournit d'ailleurs l'impact sur la santé des produits alimentaires et cosmétiques par une simple lecture du code-barre avec un téléphone. Comme les clients de la cafétéria de Poly, les utilisateurs d'Uber bénéficieraient grandement d'une application qui leur dirait, par exemple, que l'argent qu'elle verse à l'entreprise n'ira pas dans les mêmes poches ni dans les mêmes proportions que celui que vous donnez à votre chauffeur de taxi. Alors, au lieu de simplement déplorer la cupidité d'Uber, on s'en inspire pour essayer de changer au moins un peu le monde. C'était « Comment remporter un match de judo contre Hubert », un texte de Philippe Mercure, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.
Des anti-moustiques d'ambiance toxiques. Un texte de Raphaël Passalacqua Loli, paru le 25 juin 2025 dans Protégez-vous. L'Agence française de sécurité sanitaire met en garde contre les pyréthrinoïdes, une famille de pesticides synthétiques présents dans des anti-moustiques d'ambiance commercialisés au Québec sous des marques comme Thermacell ou Off. Ces produits seront aussi réévalués au Canada. En attendant, voici ce que vous devez savoir. L'été est arrivé, et avec lui, les moustiques. Pour s'en débarrasser, plusieurs utilisent des produits dits d'ambiance, comme les spirales insectifuges Off ou les barrières anti-moustiques de Thermacell. Ces outils diffusent dans l'air des substances insecticides destinées à éliminer les insectes. Les ingrédients clés de ces produits sont l'allétrine et la méthoflutrine, qui font partie d'une famille de pesticides synthétiques, les pyréthrinoïdes. Si vous avez déjà fait brûler une spirale insectifuge ou utiliser un diffuseur ou une lanterne contre les moustiques, il est probable que vous ayez été exposé aux pyréthrinoïdes. Ces produits sont efficaces parce qu'ils s'attaquent au système nerveux des insectes, entraînant leur paralysie. À la différence d'autres comme le DEET qu'on applique sur la peau, et qui se contente de repousser ces indésirables, les pyréthrinoïdes, eux, peuvent tuer les moustiques, selon la quantité diffusée dans l'air. Mais l'usage de cette catégorie de pesticides soulève des inquiétudes. En avril dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, en France, a lancé une mise en garde contre les pyréthrinoïdes qui pourraient être liés à un risque accru de cancer chez des adultes exposés de façon régulière et intensive, ainsi que de troubles du comportement chez les enfants ayant été exposés de façon prénatale. Une réévaluation imminente au Canada. Qu'en est-il chez nous? Les produits pesticides d'ambiance vendus au pays contiennent eux aussi des pyréthrinoïdes, dont l'allétrine et la méthoflutrine. Ils font l'objet d'une évaluation menée par Santé Canada qui vise à s'assurer qu'ils sont à la fois efficaces et sécuritaires lorsqu'ils sont utilisés selon ce qu'indique l'étiquette. Ces produits sont également réévalués régulièrement par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ARLA, de Santé Canada. Le fabricant Thermacell assure que ces produits utilisent des doses d'allétrine et de méthoflutrine suffisantes pour perturber les capteurs des moustiques et les éloigner sans les éliminer. Et plus de 98 % de la formule se décompose dans l'air avant d'atteindre les surfaces environnantes. D'après le plan de réévaluation de l'ARLA, l'allétrine et la méthoflutrine feront l'objet de réévaluation en 2026 et 2027. En attendant, vous pouvez prendre des précautions. Pour limiter votre exposition à ces substances, privilégiez les antimoustiques à base de DEET, qui s'applique directement sur la peau et repousse les insectes. Les lampes tue-insectes peuvent également offrir une solution sans pesticides. Peu importe le produit, assurez-vous de bien lire l'étiquette et de suivre à la lettre les instructions qui y figurent. Les produits contre les guêpes, araignées et autres insectes. Les aérosols, vaporisateurs, utilisés pour éliminer les guêpes, les araignées, les coquerelles ou d'autres insectes comme Raid, Dr. Doom, Orto ou Safers, contiennent la version naturelle des pyréthrinoïdes. Ce type de pyréthrinoïdes, les pyréthrines, a été réévalué en 2023 par Santé Canada à la suite de plus de 230 incidents signalés entre 2007 et 2022. L'ARLA a jugé nécessaire de renforcer les règles entourant l'utilisation de ces produits. Ainsi, elle a réduit la quantité de produits permise par l'application. Recommande fortement d'observer un temps d'attente avant de réintégrer une pièce qui a été traitée pour éliminer des insectes. Ces changements se reflètent sur les étiquettes des produits qui doivent en faire mention depuis juillet 2024. Attention cependant, si vous utilisez un antiparasitaire plus ancien, ces recommandations n'y figurent sans doute pas. Si vous vous questionnez sur les modalités d'utilisation d'un produit, consultez le registre public de l'ARLA à l'adresse lutte-antiparasitaire.canada.ca à l'aide du nom du produit, de son numéro d'homologation ou de sa date de péremption. C'était des antimoustiques d'ambiance toxique. Un texte de Raphaël Passalacqua Loli, paru le 25 juin 2025 dans Protégez-vous.